9 décembre 2021 à Londres, un tribunal symbolique composé d'experts et de juristes a rendu un verdict historique. Après plusieurs semaines d'auditions de témoins, pour les jurés, le doute n'est plus permis. Un génocide a bien lieu en ce moment même contre les Ouïghours. La réaction de la Chine tombe immédiatement.
Le soi-disant verdict d'une telle machine à produire des mensonges n'est rien d'autre qu'une farce politique mise en scène par une poignée d'individus méprisables.
Quelques semaines plus tôt, dès le début du procès, Pékin avait donné le ton. La Chine a raison sur un point. Le tribunal ouïghour de Londres n'a aucune compétence juridique. Mais son impact n'en est pas moins considérable. Le verdict fait le tour du monde. Et surtout convainc des parlements de valider officiellement le risque de génocide.
Ouïghours, mécanique d'un génocide annoncé. C'est un film documentaire de Eric Darbré qui était proposé en compétition dans les films de plus de 40 minutes lors de la 30e édition du FIGRA, festival du grand reportage d'actualité et du documentaire de société qui s'est déroulé à Douai du 30 mai au 4 juin. Ce film documentaire traite d'un sujet sensible, celui d'une ethnie turcophone en Chine, les Ouïghours, et décrypte comment Pékin s'y prend pour éradiquer cette ethnie. Entretien avec le réalisateur pour en savoir plus, mais je vous propose tout de suite pour commencer les réactions de spectateurs et de lycéens réalisées à l'issue de la projection avec la complicité de Antonin, notre stagiaire.
Qu'est-ce que vous en avez pensé du documentaire ?
Moi je suis rentré dedans, c'est une approche différente de la télé en fait. C'est ce qui m'intéressait. Et c'est les portraits aussi des personnes, en fait. Parce que la télé a tendance à synthétiser un peu plus. On a une vision un peu plus abstraite, en fait, de ce qui se passe. Alors que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On côtoie des gens, etc. Donc, ça change l'approche. Effectivement, on se sent un peu plus concerné, quand même.
Est-ce que vous, vous étiez sensible, vous connaissiez ce génocide qui est encore d'actualité ?
Oui.
Et est-ce que vous avez appris d'autres choses en le visionnant et comment vous vous sentez après ce visionnage ?
J'ai mis des visages, je connais un réalisateur, un documentariste engagé. On apprend que le documentaire c'est aussi un rapport à soi, c'est-à-dire que ça fait 20 ans, plus de 20 ans en fait, qu'il est concerné par son sujet, en fait, ce qui fait toute la différence.
Donc vous avez beaucoup apprécié le film, et justement vous le conseillerez à des personnes pour qui s'intéressent au sujet ou même qui veulent découvrir ce sujet ?
Oui, bien sûr, mais bon, c'est la profusion en fait des documentaires qui veulent ça, et je regrette qu'on ne puisse pas le revoir. Ça c'est effectivement, j'aurais conseillé effectivement, oui.
Moi, je trouve que c'est un très bon film, très instructif et adapté à tout public. Si vous n'y connaissez rien sur le sujet, il faut aller voir ce film.
Est-ce que vous, justement, vous y avez appris quelque chose ? Est-ce que vous connaissiez ce génocide qui est encore d'actualité ?
Alors moi, j'ai pas appris grand-chose de neuf, mais j'ai beaucoup étudié ce sujet auparavant. Mais pour de la vulgarisation, c'est très bien, une très bonne porte d'entrée.
Alors, vous venez de quel lycée ?
Lycée Watteau à Valenciennes.
Ce film, c'est quand même un sacré coup de poing. Comment vous réagissez après ce film et après les commentaires du réalisateur ?
Tout d'abord, on est un peu dévasté de voir vraiment ces images réelles. Tout d'abord parce que on était au courant du fait des Ouïghours en Chine, etc. Mais étant donné que ça ne nous concerne pas personnellement, on avait quand même quelque chose de très détaché, une vision très détachée par rapport à ça. Et donc de voir vraiment des témoignages réels et de voir ces familles en fait déchirées par ça, on se rend vraiment compte du phénomène en fait et qu'il faut vraiment en parler et ne pas rester dans le silence justement, comme l'a dit le réalisateur.
C'est vrai que nous, on a une vision un peu occidentale, qui vient de la France, et donc ça passe vraiment par les réseaux sociaux, par les médias, et donc on en parle, mais quand même très peu, et c'est du soutien qui est assez léger, je trouve. Et donc c'est vrai, comme disait Manon, qu'avoir des témoignages et avoir vraiment une enquête qui a été vraiment bien faite, ça ouvre les yeux sur le vrai calvaire qui se passe là-bas, quoi.
Et du coup, comment vous connaissez justement cette histoire? Vous l'avez appris comment?
On suit beaucoup les journaux et on est très dans l'actualité. Donc on a vu notamment les conférences qu'on a parlé durant le reportage, on les connaissait déjà. Donc on est plutôt sur l'actualité en fait.
C'est vrai que moi j'ai eu une grande campagne sur les réseaux sociaux de médiatisation il y a un an, je pense. C'est vrai que ça s'est tué un petit peu après et c'est regrettable, je pense. Mais on en a beaucoup entendu parler et là, c'est à ce moment-là que j'ai été au courant. Et donc sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de messages, de symboles qui sont passés. Même nous, au lycée, il y a eu des affiches, des messages de soutien. Mais c'est vrai qu'avoir ce reportage, ça montre vraiment que le soutien doit continuer, quoi.
Et enfin, dernière question, c'est votre première expérience sur le FIGRA? Vous voyez d'autres films? Vous avez vu peut-être déjà d'autres films?
On a vu un reportage juste avant sur Total Energy. Ah. Donc c'est un sujet totalement différent, mais aussi très intéressant en fait. C'est notre première expérience à FIGRA et c'est plutôt intéressant de voir ces reportages et aussi de pouvoir échanger avec les journalistes, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire d'habitude.
Moi non plus, j'y avais jamais été, c'est le lycée qui a proposé la sortie. Donc c'est vrai que c'est vraiment un grand privilège, surtout de pouvoir discuter avec, d'avoir le témoignage des réalisateurs et des producteurs derrière. Ça donne vraiment l'ampleur du travail qui a été fait et le projet vraiment de toucher le public, ce qu'ils veulent vraiment nous faire comprendre.
Il n'est pas besoin de convoquer l'image du charnier, de la chambre à gaz ou de la machette pour établir la réalité d'un génocide. Le tribunal citoyen de Londres a démontré en décembre dernier que la politique du gouvernement chinois relève de la Convention de 48 sur le génocide. Alors je rêve aujourd'hui d'une assemblée unanime où chacun d'entre nous, en votant cette résolution, en reconnaissant ce génocide, fasse résonner jusqu'au Xinjiang, jusqu'en Chine, la voix de l'humanisme et de l'universalisme des droits humains. Merci.
Agir pour les Ouïghours, c'est donc voter en faveur de cette résolution, ce que fera naturellement le groupe Agir Ensemble.
Notre groupe sera bien évidemment en faveur de cette proposition de résolution.
La priorité est d'agir de la façon la plus unanime pour faire cesser ce génocide. Et bien sûr, nous serons complètement à vos côtés.
La majorité se prononcera donc en faveur de cette proposition de résolution.
175 votants, 170 exprimés pour, 169 contre 1. La proposition est donc adoptée.
Éric Darbré, bonjour.
Bonjour.
Alors, réalisateur donc de Ouïghours, mécanique d'un génocide annoncé. D'abord, félicitations pour votre film, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Première question que j'ai envie de vous poser, il y a une rencontre avec le public. On a vu beaucoup de lycéens, et j'en ai interviewé quelques-uns, qui étaient déjà au courant de ce qui se passait. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions du public et ces questions que vous avez eues?
J'étais ravi, j'étais honnêtement ravi, je m'y attendais pas, de voir tous ces jeunes qui connaissaient la problématique ouïghour, qui ne la découvraient pas et qui avaient cette conscience du drame que vit ce peuple.
J'ai presque l'impression que la jeune génération est plus conscientisée de ce qui se passe là-bas que les adultes, que les plus âgés. Et par leurs questions, j'ai senti qu'ils voulaient agir et essayer de faire quelque chose pour stopper ça, ou en tout cas pour ne pas rester inactifs.
Pour refaire un petit peu, rétablir un peu le contexte, les Ouïghours, donc, c'est une ethnie turcophone qui vit dans le Xinjiang, donc en Chine. Je crois que votre périple là-bas a commencé en 1996. Vous pouvez m'expliquer, résumer peut-être un peu comment vous avez réussi à être au courant de ce qui se passait là-bas?
Alors, en 96, j'étais encore étudiant en école de journalisme et je voulais faire du grand reportage à l'étranger, je voulais l'aventure. Et puis, presque par hasard, j'ai vu une brève sur une révolte au fin fond de la Chine, dans une région dont on ne parlait jamais. À l'époque, on parlait du Tibet. Et là, c'était le Xinjiang et des Ouïghours. Je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé à m'y intéresser. J'ai découvert que c'était un peuple turcophone qui n'avait rien à voir avec les Chinois. Un vieux peuple qui datait... Marco Polo en parlait. Donc, je découvre une vieille culture qui risque de disparaître, et je me dis ça vaut le coup d'aller voir sur place. J'y suis allé, et c'était le début d'une grande aventure, parce que quand je suis revenu, j'ai réussi à publier quelques articles dans la presse, mais tout le monde nous disait « Non, t'es Ouïghour, on s'en fout, parle-nous des Tibétains », alors que moi, je me rendais compte qu'il y avait une vraie menace, que les Tibétains, c'était une cause qui était parfaitement juste et valable, mais que les Ouïghours l'étaient tout autant, sauf qu'il y avait... Il n'y avait aucun journaliste pour en parler, donc j'ai continué de travailler dessus. Et de fil en aiguille, j'ai pas lâché cette enquête. Et plus de 25 ans plus tard, j'y suis encore. Et sauf que maintenant, on commence à en parler, mais la situation est devenue dramatique.
D'autant plus que c'est compliqué en Chine. On est un petit peu, entre guillemets, fliqué de partout. Comment vous, en tant que journaliste, vous avez réussi justement à vous rendre là-bas et essayer d'infiltrer justement pour avoir des témoignages qui sont assez hallucinants?
C'est le fruit de ces années de travail. C'est que les Ouïghours qui m'ont vu y aller plusieurs fois, qui ont eu confiance en moi, me donnent des accès incroyables. Donc tout s'organise. C'est presque dans un film d'espionnage. C'est que tout est hyper prévu à l'avance. Moi, je signe mes enquêtes sous un pseudo pour pouvoir avoir accès à un visa. Je n'y vais jamais qu'un visa presse, sinon je serais suivi et fliqué. Et donc, chaque année, c'est plus difficile, mais j'arrive à y retourner et à obtenir ces images de terrain, de témoignages que d'autres ne peuvent pas avoir. Et c'est vraiment le fruit de toutes ces années de rester sur un même sujet au lieu de picorer, d'aller d'une enquête à une autre. Donc celle-là, vraiment, je récolte le fruit de mon investissement. Et mes amis Ouïghours continuent de me soutenir. Et aujourd'hui, je ne fais pas qu'en télé, je le fais en presse écrite, je le fais en roman graphique.
Ah oui, il y a une BD aussi. Hein.
C'est ça. J'essaye de toucher un maximum de personnes, tous les publics. Donc la télévision, c'est bien, c'est un médium qui permet d'avoir un impact très large. La presse écrite, c'en est un autre. Et je me disais, le roman graphique, c'est aussi pas mal pour toucher une autre génération. Et ça me permet de dire d'autres choses. Tout ce que je n'ai pas pu filmer, mais que j'ai vécu, dont j'ai été témoin, j'ai pu le retranscrire par la BD.
On rappelle d'ailleurs que la BD s'appelle Les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir, avec des illustrations de Elliot Frank, et c'est aux éditions Marabule. Il y a une promesse aussi que vous avez faite en 96, de ne pas laisser mourir dans le silence et l'indifférence. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en dehors de votre métier de journaliste? Est-ce qu'il y a une implication particulière qui vous tient à cœur?
Je pense pas qu'on puisse être témoin de tant de souffrances, de tant d'injustices sans être impacté. J'essaye d'être le plus neutre possible dans mon travail, mais ça serait malhonnête de vous dire que c'est un job comme un autre. Non, quand vous voyez cette telle souffrance et puis le fait que personne n'en parle, vous vous sentez responsable d'une certaine manière. Et combien de fois les Ouïghours m'ont dit « Dis au monde ce qu'on est en train de vivre ». Révèle au monde cette injustice. Raconte ça. Donc, je garde ça en moi. Quand je rentre en France, je ne peux pas m'en laver les mains et me dire « Bon, je passe à un autre sujet ». Donc, c'est vrai que je reste avec ça, avec ce poids, et j'essaye d'être le plus utile pour eux.
Et d'ailleurs, cette phrase pleine d'émotion par laquelle vous finissez votre film, ce documentaire est le minimum que je pouvais faire.
Ce qui est dramatique, c'est que, autant quand j'ai commencé en 96, j'étais persuadé de manière très naïve, que ça allait faire bouger les choses. Le simple fait de révéler la vérité au grand public, ça allait stopper ce drame. Et j'ai vu chaque année le fait que tout le monde s'en foutait, que malgré mes articles, malgré mes reportages, mes documentaires, la situation s'aggravait. Donc, par rapport aux Ouïghours, j'ai cessé de leur faire des promesses en disant « Allez-y, cette fois-ci, prenez un peu de risque avec moi, mais ça va payer. » Donc, non, aujourd'hui, c'est juste votre témoignage va faire en sorte que, au moins, vous ne pourrez pas disparaître dans l'indifférence générale et dans le silence.
Comment expliquer le silence médiatique hein, autour de ce que de nombreux pays, dont la France, bon maintenant ça bouge un petit peu, qualifient de génocide, et quid de ce qui concerne la communauté internationale?
C'est-à-dire qu'en face, vous avez quand même la Chine, qui est la deuxième puissance économique et militaire au monde, qui produit la plupart des biens qu'on consomme. Donc vous avez d'un côté des enjeux faramineux, des enjeux géopolitiques, économiques, et de l'autre côté, un peuple qui était inconnu du plus grand nombre, et qui, s'il disparaît, la plupart des gens ne le sauront même pas. Que valent les droits de l'homme par rapport aux intérêts économiques on se rend compte que malheureusement, on prime plus l'immédiateté, l'argent, les produits pas chers, plutôt que la vie humaine.
Puis il y a des témoignages très forts, et il y en a plein, on ne peut pas tous les citer, mais notamment cette rencontre aussi avec ce membre de la police chinoise qui témoigne. Comment vous avez réussi à le contacter? Est-ce qu'il en fait pas encore partie de cette police chinoise?
Alors non, officiellement, en tout cas, moi j'ai vérifié, il ne fait plus partie de cette police chinoise. Comment je l'ai contacté? En fait, c'est, encore une fois, ce sont mes contacts ouïghours qui m'ont dit un beau jour, il y a un ancien flic chinois qui a trouvé refuge en Allemagne et qui veut raconter ce qu'il a vu au Xinjiang. Si tu veux le rencontrer, c'est possible. Il n'accepte pas d'être filmé, mais au moins tu peux le rencontrer. Donc ça s'est fait. C'était très lent, très difficile, mais c'est grâce, encore une fois, à mes amis ouïghours.
Puis cette femme réfugiée en Turquie hein, qui montre une vidéo de sa fille et de sa sœur qui disent qu'elle ment sous la pression, j'imagine, des autorités chinoises aussi. C'est quand même un témoignage qui est très, très, très émotivement parlant, très fort dans votre film.
Oui, je voulais aussi sortir des explications. Souvent, vous avez des déclarations. Oui, je reçois des vidéos de la Chine, mais je ne peux pas vous les montrer. Et les Chinois répondent, ces vidéos n'existent pas, ces vidéos qui sont des témoignages, ou en tout cas des confidences forcées, des confessions forcées organisées par Pékin. Ils vont voir des Ouïghours en leur disant, vous êtes obligés de dire du bien de la Chine et de rejeter vos proches. Et c'était important pour moi. C'était important pour moi d'avoir des exemples, parce que c'est beaucoup plus fort de montrer une vidéo comme ça. C'est poignant de voir la fille d'une femme qui la rejette parce qu'elle est forcée de le faire. Et on sent derrière qu'ils n'ont pas le choix. Donc oui, je voulais absolument montrer ça. Et j'en ai plein des vidéos comme ça. Là, j'ai montré cet exemple. Mais pour moi, on est dans l'horreur absolue parce que c'est du chantage affectif, c'est du chantage familial.
Et puis le témoignage aussi qui pratiquement clôt le film, de cet homme qui veut retourner en Chine avec ses enfants pour récupérer sa femme, et qui a une phrase très forte également qui dit « Tout le monde doit mourir un jour », qui résume bien la détermination. Et on peut comprendre.
Ils en sont arrivés à un point, c'est qu'ils n'ont plus, on leur a tout pris, on leur prend leurs enfants, leurs femmes, leurs parents, leur dignité. Donc oui, ils en sont arrivés à, ils sont tellement désespérés, ils se sentent tellement abandonnés par la communauté internationale qu'ils sont prêts à prendre le risque ultime de jouer leur vie pour essayer de ne plus souffrir et d'être réunis avec leurs proches.
Et on peut dire que la conclusion, elle est plutôt positive, puisque finalement, la femme a été libérée.
Alors, la femme n'est pas libérée. Elle est...
Le droit d'appeler, oui.
Voilà. Suite au documentaire, les autorités chinoises ont autorisé cette femme à contacter plus facilement son mari, mais elle est toujours bloquée en Chine. Elle ne peut toujours pas voir ses trois enfants, ni son mari.
Et dernière question, est-ce qu'on peut faire éventuellement, avec votre film, j'y ai pensé un peu, un rapprochement ou un parallèle avec ce qui s'est passé aussi en 1994 au Rwanda avec le massacre des Tutsis par les Hutus?
Alors ça n'est pas du tout le même type de génocide, et c'est là où les Chinois jouent sur les mots, parce qu'ils vous disent, s'il y a génocide, c'est qu'il y a massacre à la machette, c'est qu'il y a des corps, il y a des charniers, montrez-nous.
Là, il n'y en a pas.
Et là, il n'y en a pas. Et d'autant, même s'il y en avait, on ne peut pas aller en Chine. Mais bon, là, il n'y en a pas. Mais dans la convention de l'ONU sur le critère de génocide, il y a un génocide par interdiction de d'avoir des enfants, d'avoir des descendances, et donc de d'étouffer, de faire en sorte que dans 2-3 générations, bah, vous soyez de moins en moins nombreux, puis à la fin, vous êtes si peu que vous pouvez même plus exister en tant que peuple. Donc, c'est un génocide pas comme celui du Rwanda, c'est-à-dire on massacre pas, par balle ou par machette, mais on empêche les naissances et on emprisonne. Donc c'est quand même reconnu comme un génocide. C'est un nouveau type de génocide qui est presque encore plus pervers.
La chose juste est de faire quelque chose, de le dire haut et fort et de dire « ça c'est mal » et de sanctionner les violations des droits de l'homme n'importe où dans le monde, y compris en Chine. La chose juste est de dire que ce travail forcé, nous ne pouvons pas en importer la production, simplement parce que c'est mal. Y aura-t-il un effet positif ou pas? Qui sait? C'est possible. Faire les choses justes a souvent des effets positifs à long terme.
Voilà donc tout ce que l'on a à proposer aux Ouïghours. Attendez, patientez, ça finira par aller mieux. Sauf que l'on parle de génocide. Face à la démission de la communauté internationale, Metter pourrait tout arrêter, mais elle s'y refuse.
Je vais faire du mieux que je peux, parce qu'étant Ouïghour moi-même, je me sens moralement obligée de faire ma part. Je pense que je vais continuer et passer ma vie à me battre pour la liberté de mon peuple.
Et surtout, continuez de donner un visage à chacune des victimes de la répression chinoise, pour que nul ne puisse prétendre un jour que l'on ne savait pas, que ça n'existait pas. En 1996, un Ouïghour m'avait dit « si rien ne change, nous allons disparaître, et le pire, c'est que personne n'y prêtera attention ». Ce documentaire, c'est le minimum que je pouvais faire. Thank you.